Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par la rugby. Je suis très content d'être là avec deux deuxièmes lignes, notamment Charlie Bayer de Massif Central. Salut Charlie.
Salut mon ticket, salut tout le monde, ravi d'être là avec toi, comme régulièrement maintenant, toujours un plaisir de revenir sur l'actualité rugby avec les copains.
Et notre deuxième ligne, c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Racing 92.
Tout à fait, fidèle au poste pour les tâches obscures du pack.
Normalement, Tiquet, c'est vrai que tu nous présentes aussi Alban, qui là aujourd'hui n'est pas parmi nous. Alors, on voudrait s'excuser auprès de Gauthier de l'absence de la plus belle voix féminine podcast pour lui, d'après sa propre élection. Voilà, mais elle reviendra la semaine prochaine.
Alban will be back.
Si vous ne connaissez pas Gauthier, donc sur Twitter, c'est quelqu'un qui aime énormément des podcasts et qui est gentil avec nous. Et donc, n'hésitez pas à le suivre, Gauthier, sur Twitter. Il y a aussi Clégo, qui a un très bon site web. Si vous êtes curieux de podcasts, qui vous aimez beaucoup ce média et vous cherchez d'autres podcasts à écouter que nous, donc vous pouvez suivre Clégo et Gauthier sur Twitter. Pardon, je m'interromps moi-même. Alors, petit souci de son vers la fin de cet épisode sur la piste de Théo. Donc ça explique un petit différence de son. Pardon pour celle-là. La deuxième information est beaucoup plus importante. Donc, on a appris le triste mort de Christophe Dominici ce soir, juste avant de lancer ce podcast. Comme tout le monde, tout le pack est vraiment très, très ému et choqué par cette nouvelle. Allez, on pense très fort à lui et à sa famille. Repose en paix. On retourne tout doucement à notre épisode. Donc les gars, on va parler du rugby, peut-être on démarra avec un peu de top 14 quand même, parce qu'il y avait des bonnes nouvelles côté Stade Français, n'est-ce pas Charlie?
Il y avait des bonnes nouvelles, ouais, pour les Parisiens. Est-ce que la banlieue, est-ce que le 92 c'est Paris? Je sais pas, mais du coup il n'y aurait pas des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais enfin bon, concernant Paris, oui, des bonnes nouvelles. Il y a eu ce match qui était censé faire l'ouverture de cette saison de top 14, qui a été annulé pour des raisons de cas de Covid dans les rangs du Stade Français, qui a donc fini par être rejoué et remporté par Paris. Et ça fait du bien, parce qu'après une belle victoire de standing la saison dernière, on enchaîne, on poursuit. Je pense que la patte Quesada y est pour quelque chose. Parce que, en fait, si on s'en souvient bien, l'année dernière, on avait eu des matchs comme ça de référence, hein, comme on dit, qu'on avait battu Toulouse à la maison de belle manière. On avait beaucoup parlé aussi, sauf qu'on chutait derrière. Et Quesada, c'était un mec qu'on était arrivé il y a 6 ou 7 ans, je sais plus, mais que la première fois qu'il était arrivé au Stade Français, c'était lui qui avait ramené un peu des préparateurs mentaux qu'on avait beaucoup parlé à l'époque, où c'était encore un petit peu tabou, tout ce qui était mental, parce qu'on prenait ça pour une faiblesse, je pense à l'époque encore. Mais on voit sur cette saison que l'équipe arrive à être dans la continuité, arrive à enchaîner les belles performances. Et en début d'année, Alban et moi nous enthousiasmons pour le retour de ce super coach. Pour l'instant, les faits nous prouvent qu'on avait eu raison de s'emballer.
Il y a la patte Quesada, il y a aussi les pattes Macalou quand même. Hein.
Oui, voilà, ouais, pour le coup. Il a dit qu'on est ravis de retrouver une équipe de France.
Il est exceptionnel. Il est crampant parce qu'il marche sur tout le monde.
Bah ouais, je sais pas si c'est des pattes ou des bûches. Enfin, il y a un peu de tout. C'est à la fois solide
un joueur,
et mobile.
Quand il tient une forme comme ça, c'est un joueur qui peut jouer dans toutes les équipes du monde. Là, il est hallucinant.
C'est vrai que Stade Français, ils ont battu Toulouse et après La Rochelle et maintenant Bordeaux-Bègles. Donc, ça fait 3 victoires à la suite, assez sympa. La Rochelle, en parlant de La Rochelle, ils ont quand même gagné contre Metro Racing.
Ouais, un match rugueux, on va dire, avec un score à l'ancienne qui finit vraiment à 9-6, 12-6 ou quelque chose comme
9-6.
Ça. 9-6, c'est vraiment des scores de Pro D2 dans les années 2000, hein, quand je jouais au Racing, c'était plus trop dans leurs habitudes. Ce qu'on peut dire sur ce match-là, c'est que c'est quand même grosso modo la faute à Trinduc, hein, puisqu'il rate 3 pénalités au pied. Donc sur des matchs comme ça, quand tant qu'il y passe, c'est mort. Voilà. Donc c'est un joueur que j'aime bien, hein, mais il a toujours malheureusement été un petit peu irrégulier dans cet exercice. Et ça fait la différence dans des moments comme celui-là. Après, La Rochelle fait un bon match. Il y a West qui revenait. Voilà, match très disputé, mais moi j'aime toujours bien voir cette équipe du Racing avec beaucoup de jeunes maintenant, des gamins dont on connaît pas les noms, qui sortent du centre de formation du club, et je trouve que ils continuent de montrer qu'ils veulent ne rien lâcher. Perdre que 9-6 à Marcel de Flandre, c'est une belle perf.
C'est vrai qu'on va parler d'autres jeunes qu'on va rencontrer bientôt, mais je pense que tu voulais mettre un petit mot pour ton chouchou Sergio Parisse, Charlie.
Bah oui, parce que notre petit Parisien, en plus de retarder sa retraite et de briller sur les terrains, il a aussi eu un rôle un peu curieux pour qui le connaît, mais un peu de Pascal le grand frère. Parce qu'il y a Théo Dachary qui a voulu expliquer à l'arbitre qui allait le pénaliser, que s'il s'était énervé, c'était à cause de plusieurs coups qu'il avait reçus. Enfin, il voulait vraiment s'exprimer auprès de l'arbitre, au point d'en venir à le toucher. Et je pense que ça a un peu fait réagir Parissé, qui l'a assez violemment éloigné. Et je pense que quand tu te fais remonter les bretelles par Parissé et plus tard par Nonou, c'est que ça doit calmer un peu. Mais bon, c'était un peu marrant quand on connaît le joueur, venant d'un mec qui a été connu pour faire chier les arbitres. C'était un peu drôle de le voir s'énerver contre un mec qui s'énervait contre l'arbitre, mais c'est toujours bien d'avoir un ancien qui joue un peu le rôle de grand frère.
Bah, il a le costume du taulier, donc il explique aux jeunes
du fameux
qu'il faut,
papa,
voilà, rentrer dans le rang.
Allez les gars, c'est l'automne, donc on va parler de Autumn's Nations Cup. Donc premier match, c'est Angleterre-Irlande. Donc juste pour se souvenir, donc Irlande a battu Pays de Galles dans le début de cette championnat, et l'Angleterre n'était pas très sympa avec Georgie, avec un 40-0. L'Angleterre a mis presque la même équipe sur le terrain que quand ils ont battu Nouvelle-Zélande. On voit les Venipola, Sinclair, Curry, Underhill, Itoje, Young, Farrell, Slade, May, bref, c'est du lourd. Irlande, on voit qu'il n'y a pas de Sexton, donc plutôt qui est remplacé par un Rathbairn. Bon, à 15 minutes, le match il est toujours 0-0. C'est un match où les gros hommes se poussent. Un pénalité à 15 minutes pour l'Angleterre. Ils ne prennent pas les points. C'est un pari gagné. Farrell avec un long coup de pied transversal pour Johnny May. 5-0 pour England. Il a faim, Mr. Johnny May. Donc, 2 minutes plus tard, il fait un course de fou. Un course de 80 mètres, un coup de pied, un dribble de footeux. Il marque un autre essai. C'est 12-0. Mi-temps. Autour de 60 minutes, les Irlandais, ils campent chez les Anglais. Mais ils sont découpés et découpés par des plaquages anglaises. J'ai entendu subir en défense, mais j'ai l'impression que les Irlandais, ils subissaient en attaque. 73 minutes avant les premiers points verts, essai par Stockdale, grosse domination pour l'Angleterre, 18-7.
C'est le match est surtout marqué par la classe de Johnny May. Après, c'est un match de grosse confrontation entre deux équipes qui ont des joueurs expérimentés des deux côtés. Mais là, c'est vrai que Johnny May, quand il est dans ces cannes-là, chaud, chaud, chaud pour le rattraper, quoi. C'est à la fois la vitesse, l'adresse et la grinta. C'est presque un petit côté argentin, là.
Il y a un peu de ça. Ouais, bon, je suis totalement d'accord avec toi. Le deuxième essai de Johnny May était spectaculaire. Dommage. Dommage qu'il n'y ait personne pour le voir dans le stade. Bon, ça rend toujours un peu triste, mais. Et après, bah, comme tu dis, Tiquet, c'est les Anglais, ils ont quand même soulevé pas mal de viande en défense. Tom Curry et Underhill, ils ont fait à eux deux 74, pardon, plaquage offensif, ils en ont pas loupé un seul. C'est sale,
c'est
quoi.
C'est complètement délirant.
C'est une stat qui en dit long sur l'âpreté de ce combat. L'Irlande n'est pas loin d'être passée Fanny. Moi j'attendais un peu plus de spectacle, mais bon, on va voir plus tard que pour d'autres matchs, ça n'a pas été la journée du spectacle non plus.
Non, c'était pas un week-end spectacle. Hein.
C'était le week-end bagarre, quoi. Voilà, c'était le week-end où ça tapait dur.
Exactement ça. Et oui, j'ai pensé, les gars, vous serez contents, parce que quand même, l'homme de match, c'était un deuxième ligne, et Charlie Hunt plutôt, parce que c'était un deuxième ligne Ray 2. Alors, c'était Itoje de l'Angleterre.
Ben c'était non seulement André 2 en plus en deuxième ligne, mais un mec que je bade un peu quand même au point de subir les moqueries de mes potes. Mais c'est vrai que c'est un joueur que moi, c'est depuis cette demi-finale de Coupe du Monde où vraiment enfin il marchait sur l'eau, que bah, depuis je lui trouve une classe énorme. Mais ouais, bah du coup en tant que ça m'a fait plaisir pour lui, j'aime beaucoup ce joueur.
Allez, deuxième match, c'est Pays de Galles-Géorgie. 10-0 au mi-temps, 18-0 plein temps. Deux essais dans le match, mais 0 points marqués pour les pauvres Georgiens. Contre une jeune équipe de Pays de Galles, pas grand-chose à dire ici. Sauf prochain match pour Pays de Galles, c'est contre l'Angleterre. Et pour Géorgie, c'est Irlande.
Bah, j'espère que les Georgiens vont arriver à marquer un point contre les Irlandais. Parce que 40 contre les Anglais, 18 contre le Pays de Galles et 0 pour eux, ça fait mal. C'est pénible.
Ils font aussi bien que les Fidjiens qu'on peut jouer.
Bah non, mais c'est pénible. Là, il faut absolument que les Irlandais laissent les Géorgiens marquer quelques points.
Ouais, ouais, je pense qu'on va démarrer une petite pétition sur Internet. Allez, même un pénalité, ça ferait du bien.
C'est ça.
Donc, allez, si on passait à Argentine, Australie, Argentine, suite à leur super victoire contre Nouvelle-Zélande, on voit que Sanchez, il a un grand coup de pompe. À 25 minutes, on a presque un essai pour le numéro 13 d'Australie. Et franchement, c'est agréable d'entendre des bruits de foule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Fin de première mi-temps, 9 à 6 pour l'Australie. Il y a deux pénalités encore pour l'Australie. Donc, ça fait 15 à 6 environ à 60 minutes. Mais les Argentins, ce n'est plus une petite équipe qui s'efface à la fin des matchs. Trois pénalités par la suite pour Argentine, 15-15. Le numéro 10 d'Australie rate l'opportunité pour la gagne, rate une pénalité, mais suivi, il y a un coup de pied suivi par notre héros à tous, Pablo Mateo. Les Pumas ont toujours l'opportunité de gagner, ballon sauvé en extremis par l'Australie. Match nul, 15-15, mais pas un match nul pour les Argentins.
Ouais, les Argentins qui confirment une belle performance qu'ils avaient fait contre les All Blacks. Énorme défense, énorme engagement et énorme coup de pompe. Donc, quand t'as dit ça, t'as tout dit. Pour l'instant, le plan de jeu, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, eux aussi, comme disait Charlie joliment, retourner de la bidoche dans des proportions surprenantes. Donc, ils ont l'équipe pour faire ça parce qu'ils ont une paire de gros bras qui sont très, très efficaces. Maintenant, pour redevenir une vraie grande équipe, il va falloir proposer un petit peu plus. Mais voilà, c'est un plan de jeu qui fonctionne, et ce qu'il faut surtout maintenant voir, c'est le match entre guillemets retour contre les Blacks. Donc c'est samedi prochain, 9h35 heure française, toujours en Australie, hein. Je pense que c'est pour limiter les déplacements liés au Covid et tout ça que tous ces matchs-là se jouent en Australie de manière un petit peu inhabituelle. Donc le Hunter Stadium, hein, le stade du chasseur, on va bien voir qui est la proie à la fin. À Newcastle en Australie, on peut pas l'inventer celui-là non plus.
Le coach Mario, à la suite de ce match, il disait de Sanchez, he's walking on water. Donc ça me paraît assez.
C'est ça. Il est dans la forme de sa vie là en ce moment. Et c'est diabolique, quoi. C'est Wilco au début des années 2000, le mec en quille tout de partout. Voilà. Donc c'est quand t'as un joueur comme ça et que tu as effectivement l'énergie et l'engagement pour provoquer des fautes et ne pas prendre d'essais. Bah voilà, tu peux battre n'importe qui, c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Ça aurait pu basculer hein, contre les Australiens. Ils ont été chanceux en première mi-temps sur l'essai effectivement que tu évoquais qui n'est pas accordé aux 13. Ils auraient pu également basculer en fin de match. Donc match nul, à mon avis, plutôt légitime.
Et puis sinon, dans les petites images que j'aime toujours rappeler et qu'on aime bien voir, je ne sais pas si vous avez vu, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qu'à la fin du match, hein, il y avait un petit supporter, un petit garçon qui était super content de partager un petit moment avec celui qui semble être son idole, hein, vu l'émotion dégagée par Matera, par la vision de Matera, et ce mec dans un geste assez classe, donc qui fait que chaque semaine, on l'aime un peu plus après son regard de feu de la semaine dernière et maintenant, dans un geste de classe, ce petit garçon, il lui a offert son maillot. Et je pense que ça l'a refait pour un petit moment. C'est des gestes qu'on aime bien voir.
On adore le détester ou on déteste l'adorer. Enfin voilà, c'est un mec qu'on voudrait avoir dans notre équipe. Quoi.
Moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe du Stade français comme on l'a en Argentine, tu vois.
Ouais, bah c'est clair, bah, quand il va revenir, ça va faire du bien, ouais.
Allez, on passe au 15 de France maintenant, avec notre match à Murrayfield contre les Écossais. C'est la quatrième fois qu'on les voit depuis environ un an, donc on commence à connaître cette équipe. Ça commence avec un Marseillaise où on a l'impression qu'ils ont pris un cours de chant, les joueurs français. Mais après, il y a la cornemuse, et même avec personne dans le stade, The Flower of Scotland, c'est toujours émouvant. Allez, ce match démarre chaud avec, à 3 minutes, on voit Vakatawa qui est vraiment en forme. Il provoque en pénalité en perçant et poussant 3 Écossais à lui tout seul. Ramos tape le pénalité, 3 points. Notre défense est sortie est plutôt sympa, hein, donc les Écossais nous testent dans l'air. On s'en sort pour l'instant. À 8 minutes, on toque sur la porte des Écossais avec un essai refusé par Vakatawa. 6 points maintenant pour Ramos. Du coup, les Blancs sont sur son autre 5 mètres. Il y a Donkey, qui donne 3 points aux Écossais. Temps fort pour les Blancs encore. Donkey avec son style capillaire d'exception. 3 points de plus. On est à 6-6. Ballon au bleu, drop direct de 2004 de Jalibert, 9 à 6. Ballon aux Écossais, Duncan, where is my coiffeuse? Marque une pénalité, 9 à 9. Même chose de l'autre côté, Hardwick provoque une pénalité, longue jambe de Ramos, 12-9. Et dans l'autre sens, avec Duncan, Where is my mind, 12-12, on a un peu le sentiment que ça va continuer comme ça pendant encore 50 minutes. En gros, si tu as un meuble Ikea à monter, c'est le bon moment. Penalty juste avant la fin de mi-temps. Assez pour nous réveiller de notre sieste? Non. Mi-temps, 12-12.
Ouais, une première mi-temps sous le signe de l'engagement quand même. Début de match très engagé des deux équipes. Ça tapait quand même assez fort. Comme tu l'as dit, c'était tellement bien organisé en défense que les Écossais nous ont pas mal testé sur les ballons hauts. Donc on a eu des satisfactions inégales avec des bonnes choses et des moins bonnes. Un beau renvoi raté par Leroux. Il rate tellement peu de choses que quand il en rate un, malheureusement, on peut le souligner. Mais encore un abattage de folie de ce joueur. Mais c'est vrai que bon, c'était un peu un match à sieste en première mi-temps quand même.
Ouais, complètement. C'était j'oserais dire ennuyeux. Et c'est marrant que pour un match comme ça, où ça se rentre un peu dans la gueule et où il pleut, la première mêlée n'ait eu lieu qu'à la demi-heure de jeu. Un peu étrange. Moi, j'ai trouvé, pour parler un peu plus largement, sur cette première mi-temps, il y a eu un moment où j'ai eu un peu peur d'un faux rythme. Il y a eu des fautes un peu étranges, pas mal de fautes, hein, sept pénalités sifflées contre la France pour cette première mi-temps. Mais il y avait un peu un faux rythme comme ça. Il y a des trucs genre la schistée foirée de Ratez, où tu te dis, il y a peut-être un peu de manque de... qui ressemblait à rien. D'ailleurs, mais même si elle sortait nulle part, au soutien, au cas où, il y avait quand même Dupont qui est partout, mais le mec, il est au soutien de tout, même des ratés. Mais voilà, quoi. Il y avait des petites choses comme ça où on se disait, et bizarrement, c'est vers la 20e, au moment où ce faux rythme semblait nous atteindre. Enfin, moi, il y avait un moment où je m'ennuie un peu. Il y a un loupé de passe alors qu'il y avait même pas de pression défensive, mais dans les passes tranquilles, il y a un loupé. Et en fait, Ramos récupère ce ballon, fait un petit slalom entre la défense, on fait une belle remontée. Et moi, c'était là où j'ai eu un semblant de réveil, c'est au drop qui a suivi de Jalibert, quoi. Mais c'était un peu inégal. Il y avait un peu d'ennui et moi, j'avais un peu cette peur d'une espèce de côté amorphe, un peu qui revenait sur des petites erreurs qu'on voyait comme ça et qui me surprenaient de cette équipe qui quand même nous impressionne depuis.
Ce qui m'a surtout déçu, c'est la dernière action du match où, pour moi, de la première mi-temps, pardon, où ils ont vraiment l'occasion d'ouvrir sur la droite et je sais pas pourquoi ils le font pas. Et pour moi, il y avait une vraie occasion d'essai à ce moment-là. J'étais déçu qu'ils tentent pas là-dessus. Donc, ça prouve que eux aussi, je pense, étaient un peu dans les brumes de l'Écosse là.
Antoine Dupont nous montre qu'il a pris un peu d'âge. Il parle aux arbitres pour faire changer un pénalité. Tout de suite après, Ficou à l'intérieur pour Ratez qui donne à Vakatawa. Essai pour des Bleus, t'es beau essai. Donkey Donuts marque un pénalité. Donc, on est à 15 pour les Écossais, 19 pour la France. La France montre un peu plus leur supériorité, mais l'Écosse s'accroche quand même. Ils ont pas peur de nous, ça c'est sûr. Des jolies actions côté bleu, notamment un super molle, mais le coup de pied de Jalibert pour Teddy Thomas ne trouve pas son cible. Les Écossais sont des défenseurs solides, donc on doit se contenter que de 3 points, 22 à 15. Échange de coup de pied qui dure, je pense, minimum 7 minutes. À 69 minutes, on voit le retour de Awas et qui nous gagne à mêlée, mais il perd le prochain. On mène, mais on n'a pas à l'abri. Le ballon, c'est pour les Écossais à 80 minutes. Hogg, il essaie de faire un panel touche. Mais comme les Écossais à ce jour-là, il arrive un peu court. C'est une victoire pour nos Bleus. Une victoire, c'est toujours plus beau qu'un perte.
Oui, ce que tu dis en partant de la fin, c'est clair. Ce qu'ont réussi les Français sur ce match-là, c'est à maîtriser les petites choses de plus qui ont fait que c'est passé. Et l'erreur de Stuart Hogg en fin de match est indigne d'un joueur de ce niveau. Pas trouver la pénalité sur la pénalité de la gagne pour aller chercher le match nul, c'est... Voilà. Nothing personal, Stuart, mais c'est nul. C'est vraiment pas possible. Je suis vraiment, je peux pas accepter ça. Par contre, j'ai effectivement adoré l'essai français, hein, qui est un essai en première main, super bien joué et qui est magnifique. Même si Ratez aurait pu fixer un peu mieux, parce qu'on a eu peur qu'il se fasse reprendre, même si Vakatawa a dû s'écrabouiller la tête par terre pour se retourner et marquer quand même, on a eu une mini frayeur, mais le lancement était super. Voilà, ce que j'ai moins aimé, moi, c'est les Écossais qui essayent de faire dégoupiller Awas quand ils rentrent, j'ai trouvé ça quand même assez dégueulasse, et j'ai adoré, Cretin en fin de match plusieurs fois, défense en l'air, défense sur touche, ultra précieuse. Donc ce garçon-là va être un atout maître, je pense, du 15 de France, de l'alignement du 15 de France dans des moments clés. Là, il répond présent. Ça, c'est génial.
Complètement. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est vrai que tu avais cet essai qui était super beau construit. Moi, j'ai moins peur de Rates que de Vakatawa à la fin, qui joue pas du tout de contre un, qui va complètement. Bon, après, avec une réussite que nous ne pouvons que constater, quoi. Mais bon, il va.
Quand t'as 200 chevaux au cul, ce qui est son cas, c'est plus facile oui, hein, de rater les trucs.
Ça aide un peu plus. Mais c'est vrai que cet essai était super intéressant parce que moi, il avait vraiment souligné pour moi l'importance que prenait Ficou un peu dans cette ligne de trois quarts où vraiment il est décisif. Mmh. On le voit pas au bout des actions, mais on le voit au départ de pas mal, où là en l'occurrence il fait le choix de redonner un Rates. Mais en fait j'ai lu dans l'équipe d'aujourd'hui que c'était une combi qu'ils avaient essayé de passer la fin de la première mi-temps de ce même match, et que en fait c'est Dupont encore lui qui a dit tiens, vous avez remarqué que quand même mon défenseur il fixe que moi, il monte plein de balles sur moi et il en a après moi, à raison vu ses prestations dernièrement, et qu'en fait
il voulait choper le Tamagotchi, ouais. Le défenseur.
Et ben du coup il a fait un petit trou dans la défense. Mais c'est vrai que cet essai était super beau à voir dans le rugby de combat qu'il y avait autour. Il y avait au moins un essai qui était construit, enfin qui était beau, un essai de première main quoi, comme tu dis. Et après ouais, aussi sur le tu parlais d'Awas qui se fait chambrer. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès qu'il se faisait un peu houspiller, bon les bagarres ça n'existe plus quoi, mais dès qu'il se faisait un peu houspiller, t'avais quand même toute l'équipe de France, au moins tous les gros qui étaient autour, qui attrapait les Écossais, qui le poussait, ouais. et du coup enfin qui était vraiment, qui le soutenait et qui le défendait. Moi j'ai trouvé ça me plaît quoi. Ça me plaît. Après,
moi, Théo, tu avais parlé de roue, et en fait, il me fait penser à tu vois, il y a un style de cowboy qui saute, il prend le veau, il le plaque par terre, et en fait, il ligote, tu vois. Et en fait, le roue, il fait penser à ça, en fait. C'est ça qu'il fait avec ses avatars.
Le tout sans sourciller, le tout sans broncher, quoi. C'est ça.
Sinon, il y avait quand même quelques nouveaux têtes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous avaient plu?
Je pense que je voulais parler un peu plus globalement du match, ce que j'avais un peu évoqué pour la première mi-temps, mais qui était vraiment visible sur l'ensemble du match, c'est que on voyait que ça repartait quand même beaucoup, on refaisait beaucoup jouer au ras, les gros repartaient beaucoup. Il y avait en première mi-temps les ailiers, ils ont jamais vu le ballon, ça a pas beaucoup ouvert, c'était très gros, et je pense que c'était pas forcément le jeu de Jalibert. Peut-être que du coup il était un peu coincé par des consignes. Je pense que c'était le joueur qui était le plus regardé, c'était celui qui avait le plus approuvé. Et malheureusement, j'ai un peu peur qu'on retombe dans ces travers de on a souvent parlé ensemble de la charnière ici, où on aime bien critiquer les 10, et je pense que c'est un match où les absents où l'absent à son poste a plus gagné de points que lui quoi. Au niveau des joueurs aussi que je voulais souligner, il y avait Marchand qui pour moi a fait une super belle entrée. Il faut quand même souligner, sinon j'ai un pote qui va m'arracher les yeux si je souligne pas, mais il a fait des contre-rocks plus grattage derrière, enfin il était très bon là-dessus. Gros client, l'autant l'équipe de France était forte sur sa première ligne, là on retrouve des mecs, enfin les titulaires qui d'habitude étaient remplaçants ont fait une très belle prestation. Quand le banc est rentré, ça a été très propre. Et puis on a quand même des mecs de classe, enfin on n'a pas encore parlé d'Aldrit, mais sur ce match encore il a été énorme. Vakatawa, il est énorme. Je charriais un peu tout à l'heure qu'il joue pas les deux contre un, mais bon, de toute façon quand t'as son gab, t'as raison de pas les jouer quoi, limite. T'as Kamisha, enfin t'as quand même des mecs qui ont leur place dans des très très bonnes équipes internationales quoi.
Il y avait un de nos écouteurs qui a dit, Joe Fontaine, il a dit que ça manquait effectivement un peu d'animation, mais une bonne conquête, une bonne paire de centres qui fait plaisir à voir quand même. C'est vrai que d'un coup, on avait vu pour la première fois des petites erreurs, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et je trouve que ça nous fait penser quand même qu'on était gâtés pendant ces 6 nations. Donc quand même, on voulait prendre notre revanche contre cette équipe de Corse, et je pense que quand même, on l'a bien fait.
Ouais, moi je rejoins tout à fait, c'est-à-dire que on devient peut-être un peu trop délicat, nos papilles deviennent trop délicates, on veut du plus à chaque fois, mais mine de rien c'est un match qu'on n'aurait pas forcément gagné il y a quelques années. Je pense que l'équipe de France regagne de l'intérêt aux yeux du public. D'ailleurs, il y a un quart des téléspectateurs pendant cette tranche horaire qui étaient devant ce match. Donc c'est que l'équipe de France attire à nouveau, et c'est tant mieux, et elle attire à raison. Je pense qu'il y avait pas mal de, c'était, il y avait pas mal de stratégies aussi dans ce match-là. Il y a eu du combat et mine de rien, même si on parle d'indiscipline, j'ai pas les stats en tête, mais j'ai quand même l'impression qu'au final, à la fin du match, on a fait moins de fautes que notre moyenne de fautes sur le, notre moyenne de pénalité encaissée, enfin notre moyenne de pénalité contre nous, sifflée contre nous pendant le tournoi Destination. Un petit truc quand même sur Tao Fifenua qui revenait plus ou moins, qui a fait un super match pour moi. Il faisait peut-être un peu partie de ces mecs qui pouvaient penser avoir vu le train passer et il revient, il fait une très très belle prestation. Ça me fait plaisir pour lui.
D'accord avec toi, Charlie. Super content de voir Romain Tao Fifenua à ce niveau. Grosse présence physique, présence dans le combat et puis dans le jeu également un peu. N'oublions pas que on est toujours heureux de voir des Wallisiens dans notre équipe de France. Ils viennent du bout du monde. Pendant longtemps, on se disait mais où sont nos Iliens ? Bah, ils sont là. Donc la tribu des Tao dans le sillage de Willy Tao Fifenua, le précurseur passé par Mont-de-Marsan et Grenoble, et qui n'est autre que le papa de Romain. Bon sang, ne saurait mentir.
Pack de potes, terrain 10.
Allez, donc super match pour nos Bleus. On a un autre match dans une semaine contre les Italiens. Donc voilà, donc on a hâte de voir tout ça. Donc si on parlait aussi, il y avait un autre deuxième match pour notre équipe de France. Cette fois-ci, l'équipe de France féminine. Donc là, dans tous les matchs qu'on a déjà parlé, il y a 4 matchs. Je pense qu'on a eu 6 essais dans ces 4 matchs. Et là, on a quand même dans un match dont on va parler, on va avoir 6 essais aussi. Donc c'est franchement, c'était un sacré match. Donc 15 de France femmes contre les Anglaises. Ça démarre, je trouve que c'est déjà pas juste parce que les Anglaises, ils ont une vraie chanteuse pour faire un tome, je pense que ça c'est pas vraiment correct. Bref, le match démarre assez bien pour les Françaises, il y a des jolies mêlées, il y a des Anglaises qui sont en difficulté. Nous on loupe en pénalité, mais on est de retour, faute contre les Anglaises, ça passe pour Douan, 3-0. Ballon aux Anglais, ils ont face à une défense très solide des Françaises, coup de bol pour Aysen suite à un mauvais passe, un essai non transformé, pas très juste mais c'est 5-3, mais c'est comme ça. La France ne baisse pas les bras. Essaye pour Emeline Gros. Les Anglaises sont un peu endormies, mais les ballons commencent à tomber par terre pour les Bleus aussi. Il reste un autre touche perdu par les Anglaises. On reprend la balle. On va la distance. Super essai de numéro 14, Cyrielle Banet. 15-5, le mi-temps pour la France. Deuxième mi-temps démarre moins bien pour Miss Banet, carton jaune, donc essai logique pour les Anglaises, 15-10, toujours pour la France, mais les Bleus limitent un peu les dégâts avec un autre pénalité, 18-10 pour la France. À 60 minutes, un gros échangement d'effectifs avec 8 remplacements, elle commence à gratter les ballons, des ballons des Françaises. Après des longues séquences de jeu, numéro 14, Banet fait son doublé après une passe de 12e ligne, mais attention, la talonneuse Anglaise Cocaine est entrée dans cette armée de remplaçants, donc la fête va commencer pour les Anglaises. Même chose que la dernière match, touche molle, essai de Cocaine à 70 minutes. Les Anglaises sont remontées, elles sont en confiance et bam, un nouvel essai. On perd nos moyens, on perd une touche, on est pénalisé pour un mêlé, on échappe presque la puissance et la pression anglaise, mais pénalité contre Chaussin à 80 minutes. La joueuse de l'année dernière n'avait pas raté une pénalité de 20 mètres. Angleterre 25, France 23.
Match cruel hein, pour nos Françaises. Clairement, je pense que le match à suspense, il était là hein, du week-end. C'est cruel parce que bon, on avait un peu pris une dérouillée chez nous à Grenoble la semaine dernière. Là, chez les Anglaises, on arrive avec des belles intentions. Ça travaille bien. Le deuxième essai, moi, le premier du doublé, je l'ai beaucoup aimé. Pour moi, on relance quand même de nos 20 mètres, donc ça montrait un petit peu de confiance quand même. Je pense que c'était ce qu'il y avait pendant tout ce match. Leur surnom, Alban nous le répète à l'envi, c'est les affamés. Clairement, elles ont bien défendu leur surnom là-dessus. C'est dur parce que normalement on a des avants assez forts. Après, les Anglaises qui sont quand même numéro 1 mondial. On sait que t'aimes bien les classements, Théo. Les Anglaises qui sont quand même numéro 1 mondial, bah elles ont joué avec leur grosse quoi sur deux essais de deux cocottes en ballon porté. On a pas pu faire grand chose dessus. Sur l'essai que tu cites avec la petite passe de deuxième ligne, cette deuxième ligne en question, c'est Safine Diaye. Qui avait commencé en 8 et que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. Je ne comprends pas que cette meuf ne soit pas devenue une star parce qu'on ne voit qu'elle. Plus maintenant qu'elle est deuxième ligne, on ne peut que l'aimer plus. Exactement. Et sa petite, et je la citais sur cet essai parce que petite passe sur un pas. Et pour la fin du match, ouais, c'est un peu une grosse, enfin, c'est vraiment triste parce que surtout que les Françaises font vraiment gaffe à être bien appliquées. Tu vois bien que la non-sortie du ruck, elle est complètement involontaire. Elle pouvait rien faire pour en sortir. Ça arrive, c'est comme ça, même si l'arbitre et tout le monde sait que tu ne pouvais rien faire, que tu étais bloqué. Malheureusement, tu empêches la sortie du ballon, donc tu es pénalisé. C'est un peu dur, mais au moins les Français ont montré un beau combat. Et on ressort de cette deuxième confrontation contre les Anglaises par la tête haute. Voilà.
Ouais, la semaine dernière, les filles nous avaient vraiment déçus sur cette deuxième mi-temps. On avait été un peu sévères, surtout moi. Alban m'avait dit que j'étais méchant. Et puis j'avais fini en disant qu'elles aillent nous montrer à Twickenham ce qu'elles savent faire. Et elles l'ont fait de la plus belle des manières. Sur ce match-là, il y a tout ce qu'il faut, sauf la victoire, malheureusement. C'est un peu la tradition des 15 de France qui vont perdre chez les British en méritant de gagner. Mais elles ont montré l'essentiel, à savoir qu'elles ont un cœur de lionne, des cœurs de lionne et une capacité à bousculer n'importe quelle équipe sur cet échiquier mondial. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Pas grand-chose. Un brin de souffle à la fin, un brin de chance aussi. Mais l'essentiel pour faire une grande aventure était là. Avec des belles qualités techniques, stratégiques, un engagement de folie, et puis du suspense, ce qui a presque manqué chez les garçons. Donc, chapeau, mesdames, envie de vous revoir. Chapeau, Safia Ndiaye et toutes les autres. Et puis, voilà, désolé d'avoir été un petit peu sévère avec vous la semaine dernière, mais si c'est pour voir des matchs comme ça avec la victoire au bout, on en redemande vraiment.
Oui, Théo, je trouve que t'as tout à fait raison. Je trouvais que il manquait pas d'énergie sur les plaquages. Je trouvais que Rose Bernardo elle était vraiment fantastique. Socha aussi avec énormément de plaquages un peu partout. Dommage que la pénalité à la fin du match ça tombe sur elle parce qu'elle était vraiment partout sur tous les plaquages. Donc grosse équipe et c'était un vrai plaisir de regarder ce match. On était toute la famille en train de regarder, en train de hurler qu'on souhaite la victoire pour cette équipe de France. Et je trouve que c'est une bonne chose pour cette équipe et pour le rugby féminin en général. Donc Charlie, tu trouvais cette pénalité était normale, on va dire. D'ailleurs, l'arbitre ressemblait énormément à Emma Stone. J'étais un peu perturbé pendant tout le match. Mais pour moi, elle gênait pas la sortie du ballon. C'était des pick and go. Est-ce que c'était vraiment un tel pénalité? Parce que c'est quand même ça donnait le match aux Anglaises.
C'est une zone où il n'y a pas de, on laisse pas de place à l'interprétation de la règle. Où c'est vrai que là, pour le coup, en fait, s'il y a moyen de gêner, mais tous les gros connaissent ça, où tu t'essayes de t'extraire, et justement, quelquefois, le vice, il est plutôt dans le fait de retenir le mec qui essaie de s'extraire pour justement qu'il se fasse siffler. C'est plus, le vice est plus à l'inverse maintenant, mais malheureusement, c'est cruel pour les Bleus, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui doit être sifflé parce que sinon, ça devient très très vite pénible s'il y a une zone de peut-être dans le fait de ralentir les balles.
Bon, merci à nos filles quand même pour un super bel match à regarder. Et donc, on va se retrouver pour la semaine prochaine où on aura quand même notre match contre l'Italie. Donc, à très bientôt, les garçons. Merci beaucoup.
Mais ouais, on se voit souvent en ce moment, c'est cool. On se rattrape de toute cette absence de rugby qu'on a eue cet été. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette orgie de rugby auquel on a droit depuis quelques semaines. Est-ce que ça vous en fait trop? Est-ce que ça n'en fait pas assez? En tout cas, on est très content d'avoir à chaque fois vos avis sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et même sur Apple Podcast parfois, puisqu'on a eu un super message de Disto qui nous a dit un podcast qui parle de rugby et qui le fait bien. Podcast très plaisant, des petits messages comme ça, ça nous fait très plaisir, on te remercie beaucoup Disto, et vous aussi n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce qui nous manque, ou ce que vous avez hâte de réentendre. On a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Allez les gars, à très bientôt.
Ciao les gars.
Bye bye.